Celui que j'ai vu dans la rue, peut-être que vous l'avez vu passer, là, mais c'est, il passe souvent dans la Côte-Saint-Sacrement. Lui, il est avec un genre de véhicule électrique, mais c'est une roue. Donc, il est debout sur une roue, puis il peut rouler à des vitesses là, qui avoisinent les 60-70 km/h assez facilement, parce que je le vois régulièrement descendre Saint-Sacrement avec cette roue-là. Il a son casque sur la tête, il est tout habillé en cuir, il a des gants, il a des bottes. Il est installé, mais le gars, il est pas plaqué, là.
Ouais, c'est ça.
Fait que, je sais pas, je sais pas, peut-être que ça s'appelle un giro-truc, giro-roue, quelque chose du genre, mais il va en avoir de plus en plus parce que ça permet aux gens de se mouvoir dans notre ville. Le cas qui nous est rapporté dans la presse, Maître Bellemare, c'est un individu qui a perdu son permis de conduire. Il était sous, il s'est fait pogner par la police, il a perdu son permis de conduire, puis il s'est dit, ben regarde, moi j'habite à Montréal, moi m'acheter un véhicule électrique qui roule à 90 km/h, ça va faire la même job.
Exact. Ah, t'as raison. Alors, il n'est pas obligé à ce moment-là d'avoir tout l'arsenal puis de payer tous les droits associés à l'alcool au volant. Fait qu'il se promène avec ça. Oui, effectivement. Mais ça, c'est ça, il a le droit de faire ça. Mais toute la question qui touche l'encadrement de ce type de véhicule-là, en tout cas, on verra bien, je ne sais pas. C'est sûr que si ça demeure en termes quantitatifs ce que c'est actuellement, à savoir qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. C'est sûr, moi, en hiver, j'en ai pas vu. Je ne sais pas s'il y en a, mais en tout cas, il y en a beaucoup moins en hiver. À cause de l'hiver, c'est sûr que ça peut peut-être limiter les élans des acheteurs, puis la période de l'année où c'est utilisé. Mais si ça prolifère, puis si ça se développe, ben, je pense bien que d'ici quelques années, ils vont devoir légiférer là-dessus, là.
Histoire que je vous ai envoyée par texto la semaine dernière, l'article date du 23 février dernier. On parle d'Otoniel Larez Batzibal, qui est un ouvrier agricole guatémaltèque qui est malheureusement décédé en changeant le pneu d'une fourgonnette de la ferme où il travaillait. Cette histoire-là s'est ramassée à la CNSST, puis de voir que, bon, l'individu est décédé, là, et donc lui, il ne sera pas dédommagé, mais de voir que il était sur son lieu de travail, puis que la famille ne sera pas dédommagée, je trouve ça très particulier. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler de ce type de cas-là, Maître Bellemare?
Bien, tout n'est pas accepté par la CNESST comme accident de travail pour un individu qui, je sais pas moi, par exemple, si tu te blesses dans le stationnement de l'employeur, ça va être un cas d'accident de travail. Si tu te blesses à l'occasion d'une activité sportive organisée par l'employeur, partie de balle molle, partie de hockey, partie de ballon-ballet, puis tu te blesses, c'est parrainé, structuré, organisé par l'employeur. À ce moment-là, c'est un cas de CNESST. Il y a beaucoup de cas qui sont axés les douches. On l'a vu il n'y a pas longtemps, le télétravail, là, tu sais, la fille qui travaille dans le sous-sol, à un moment donné, elle s'en va dîner, elle monte au rez-de-chaussée de sa maison, elle bêche dans l'escalier, puis elle se blesse, ça a été considéré comme un accident de travail. Dans le cas dont tu parles, le Guatémaltèque a été jugé par le tribunal administratif du travail comme étant un individu qui a posé un geste personnel, mais un geste bienveillant, un geste qui était positif pour l'employeur, mais qui n'était pas ordonné, qui n'était pas obligé. Donc, la juge a décidé que ce n'était pas un accident de travail. Personnellement, j'ai été surpris. Je suis surpris parce que ce n'est pas tout à fait une décision qui va dans le sens de la majorité des décisions rendues par le tribunal pour qualifier un accident de travail par rapport à une activité personnelle. Moi, je n'étais pas là quand ce gars-là a été défendu. Je ne sais pas s'il a été défendu par avocat. Je ne sais pas s'il s'est vraiment occupé. Si la famille était vraiment organisée pour défendre ses droits devant le tribunal administratif du travail, parce que c'est une décision finale, le tribunal administratif du travail rend une décision finale, mais j'ai été un peu surpris parce que même si l'activité n'est pas ordonnée spécifiquement par l'employeur, qu'elle ne fait pas partie spécifiquement des conditions de travail, dans une certaine mesure, elle a profité à l'employeur.
Exact.
Et puis, c'est ce qui a été utilisé par le travailleur guatémaltèque qui est mort dans cet événement-là, c'est des équipements de l'employeur. Puis je ne pense pas que l'employeur ait pris des mesures pour interdire ce genre de comportement-là. C'est un travailleur étranger. Il croyait bien faire, puis il s'est tué en posant ce geste-là. J'ai été un petit peu surpris, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est pas toujours automatique. La CNSST, c'est pas parce que tu te blesses chez l'employeur que c'est nécessairement un cas de CNSST. Encore faut-il que ce soit une activité qui profite à l'employeur, puis qui soit en quelque part, sous une forme d'autorité de l'employeur, soit dans ses locaux, que ce soit autorisé, que ce soit permis, même si ça n'a pas été spécifiquement commandé par l'employeur, il faut qu'il y ait le plus de liens possible avec l'activité professionnelle de l'employeur.
Mais d'un autre côté, mettons qu'on prend un autre cas typique, là. Moi, j'étais gestionnaire pour une entreprise qui s'appelait Câble Action, qui a été achetée par Cogeco. On était en Beauce et en Estrie. Et moi, ce qu'on m'avait raconté, c'est que si un employé, lors de sa pause du midi, Maître Bellemare, là, va, je ne sais pas moi, acheter une boîte de papier pour qu'on puisse remplir l'imprimante, puis il arrive un accident, ben c'est considéré comme s'il était toujours à l'emploi
Oui,
de
ben,
Câble
tout à
Action.
fait. Absolument. Absolument.
Donc, si le propriétaire de la ferme lui avait dit change le pneu, ça aurait tout changé, là.
C'est sûr que s'il l'avait dit nommément, oui, mais le patron n'a pas toujours à dire tu vas faire ci, tu vas faire ça pour que ce soit un geste du travailleur qui lui rapporte ou qui profite à l'employeur. C'est pas, dans une entreprise normale, il y a beaucoup de choses qui sont faites par les travailleurs, instinctivement, spontanément, dans le but de favoriser l'employeur, son industrie, développer de bonnes relations, favoriser la productivité. Tout dépend de la finalité du geste qui a été posé. Est-ce que c'est un geste qui a été posé dans l'intérêt de l'employeur, même si ce n'était pas formellement prescrit? À ce moment-là, ça serait considéré comme un accident de travail.
Est-ce que c'est
Mais
la...
moi, je te le dis, là, j'aurais facilement plaidé cette cause-là. Et si on m'avait consulté là-dessus, j'aurais dit oui, c'est un accident de travail. Mais encore là, quel genre de preuve a été faite au tribunal? C'est un travailleur étranger. Est-ce qu'il parlait bien français aussi? Est-ce qu'il était capable de bien comprendre les directives d'employeur? Ce n'est pas un gars d'ici, là. C'est un gars qui vient du Guatemala. Je pense que sa famille est au Guatemala encore aujourd'hui.
Exact.
Alors moi, j'ai l'impression que ça a été plus ou moins défendu, cette affaire-là. Ça s'est fait un peu de façon un peu rapide. Et la juge a décidé que la preuve était à l'effet que c'était un geste personnel. J'ai été un petit peu surpris de la façon dont la presse a joué l'affaire en disant que qu'il était mort il n'y avait pas de comme s'il n'y avait pas de justice pour les travailleurs étrangers. C'est certain que c'est pas parce que tu es guatémaltèque que tu vas être automatiquement accepté, là. Tu as quand même une preuve à faire comme quoi le geste que tu as posé est un geste qui a été posé à l'occasion de ton travail. Mais on l'a joué un peu sous la forme d'un travailleur étranger qui est mort ici et qui n'a pas été indemnisé. Bon, c'était pas plus indemnisé quand tu es guatémaltèque que quand tu es québécois ou français ou italien, là. Mais il reste que dans ce cas-là, peut-être qu'on n'a pas fait le maximum pour convaincre la juge. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue quand j'ai lu la une de la presse vendredi dernier.
Oui, puis c'est particulier parce que là, ce que je vois, c'est que c'est le directeur général du réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec qui a représenté la famille Batzibal devant le TAT, donc le tribunal administratif du travail, c'est bien ça. Et lui
Oui.
dit que bien que qu'il soit déçu par la décision, il ne compte pas porter la cause en appel. Il pourrait pas porter la cause en appel, c'est ce que vous m'avez dit?
Ben, il y a pas d'appel dans le sens que tu peux pas aller devant un tribunal au-delà du tribunal administratif du travail pour faire la preuve à nouveau, amener de nouveaux témoins, puis recommencer la procédure. Mais si la décision est complètement débile, complètement irrationnel, complètement déraisonnable et qu'il y a des éléments de la preuve qui ont vraiment été ignorés par la juge, à ce moment-là, la Cour supérieure peut non pas réentendre la preuve, mais regarder le jugement pour voir s'il n'y a pas des incohérences à la face même du jugement. Puis si c'est le cas, la Cour supérieure peut casser la décision puis ordonner un nouveau procès.
OK.
Un peu comme en matière criminelle, quand le juge commet des erreurs en instruisant le jury de façon erronée. Mais il y a pas, en principe, c'est final et sans appel, mais dans des cas extrêmes, il peut y avoir un pourvoi devant la Cour supérieure qui peut casser la
Puis
décision.
là, je viens de vérifier, directeur général du réseau d'aide aux travailleurs et travailleuses migrants agricoles du Québec n'est pas avocat, là.
Non, non, mais c'est ça, devant le tribunal administratif du travail, t'es pas obligé d'être avocat pour représenter un travailleur accidenté. C'est pour ça que je te dis, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Qui était là et puis qui a représenté la famille? Est-ce que la preuve a été faite? Est-ce qu'on a visité les lieux? Est-ce qu'on a produit des preuves de comment le lieu était organisé? Parce que le gars, il n'est plus là, le Guatémaltèque, puis le
Non.
travailleur, il est décédé. Fait qu'il ne peut plus témoigner pour dire, ben moi, j'ai fait ça dans l'intérêt de patron et ce n'est pas la première fois que je le faisais. Puis les fois que je l'ai fait avant, le patron était bien content. On ne peut pas faire cette preuve-là, mais dans ce temps-là, il faut redoubler d'efforts. Essayer de comprendre pourquoi le travailleur s'est mis dans cette position-là, une position qui a causé malheureusement son décès.
Okay. Mais peut-être aussi, devant un cas, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement, qui sont dans leur véhicule, là, s'il y a quelque chose qui vous arrive comme ça, tu sais, le représentant de l'association peut être bien gentil, là, mais un avocat qui est spécialisé là, dans les normes du travail et tout ça, ben, comme vous, exemple, je pense que vous êtes les mieux placés pour pouvoir conseiller les clients.
Oui, ouais, exactement. Surtout que l'employeur était représenté par avocat.
Ah.
Et très souvent, ils le sont. Et les employeurs savent que la question de savoir si c'est un accident de travail ou pas, ça a un impact économique très important chez l'employeur. C'est les employeurs qui payent des cotisations à la CNSST. Et plus il y a d'accidents, plus les sommes sont importantes, plus ça coûte cher à l'employeur. Lui, il sait compter. Le travailleur, pas tout le temps. Le travailleur, il ne sait pas trop, ça va rapporter quoi, qu'est-ce que ça va me donner, est-ce que je vais être incapable pendant plus longtemps, est-ce que ma famille, il y a combien de personnes à charge, ça va coûter combien le décès, parce que ça varie selon le nombre de personnes à charge. Lui, s'il y avait 14 enfants au Guatemala, là, ça peut peut-être avoir un effet, même s'il s'est blessé au Québec. Alors, je ne sais pas si ça a été bien calculé, mais effectivement, un tribunal, là, quand vous êtes convoqué au tribunal, que ce soit le tribunal administratif du travail pour des cas de CNSST, le tribunal administratif du Québec pour ce qui est d'un cas d'assurance auto, le tribunal administratif du logement pour ce qui est d'un locataire face au propriétaire. Quand ça sonne tribunal, là, c'est pas Ticoun qui doit y aller. Là. Ça doit être normalement un avocat expérimenté qui sait comment ça fonctionne, les règles de preuve, comment on interroge les témoins, qu'est-ce qu'on produit comme document, quel est l'état de la jurisprudence, comment les tribunaux se sont comportés dans ce genre de cas-là dans d'autres dossiers. Parce que si tu arrives là à peu près, puis tu penses que tu vas avoir un bon résultat, bien, si tu es préparé à peu près, tu vas avoir un résultat à peu près.
Tu vas te faire manger. Puis c'est pas le premier travailleur agricole là, étranger qui est décédé au Québec. Il y a un travailleur étranger temporaire qui est employé d'une ferme dans le secteur d'Oka, dans les Laurentides, qui a connu une fin malheureuse un soir d'août 2021 lorsqu'il a été frappé par la foudre. Lui, il y a un orage qui se dirigeait au-dessus des champs. Puis lui, ben, il a continué de ramasser des choux-fleurs. Puis ben, l'orage, la foudre lui a tombé dessus. Il est malheureusement décédé. Puis à la suite de l'accident, ben, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a exigé que l'entreprise agricole élabore une procédure d'évacuation des champs en cas d'orage.
Ah bon, OK. Mais ça, c'est les mesures préventives.
Ouais.
Ça ne dit pas nécessairement si le gars est indemnisé. Vraisemblablement qu'il l'a été, parce que c'est vraiment un accident de travail. Mais moi, je peux te dire que des travailleurs étrangers, des hispanophones, j'en ai beaucoup ici au bureau.
Ah ouais.
Ils ont tous été indemnisés et la plupart sont des blessés. Il y a quelques cas de décès, heureusement, des cas rares, des cas exceptionnels, mais il y en a beaucoup qui sont blessés. Et je peux te dire qu'au niveau des coûts, c'est immense. J'ai un travailleur, par exemple, qui a été blessé dans la région de Drummondville il y avait une quarantaine d'années. Jamais pu y avoir travaillé. Il a été blessé ici, ça faisait, je pense, 4 mois qu'il travaillait au Québec. Il ne parle à peu près pas français. Il a une blessure majeure au niveau d'un bras qui ne marche presque plus. Qu'est-ce que tu veux faire avec un gars de même? Là? Parce que le principe à CNSST, c'est que tu indemnises la personne, puis ça ne peut pas reprendre son ancien travail. Il y a des mécanismes de réadaptation où on doit recycler la personne. OK? Toi, tu es un animateur de radio. Tu as un accident de travail important, tu as des problèmes, tu sais pas, tu as un TCC, tu as de la misère à t'exprimer, tu es tout mêlé dans tes propos. À ce moment-là, ils vont te recycler dans un autre domaine. Mais si c'est un travailleur étranger qui travaille, qui a une scolarité de deuxième année dans son pays, il arrive ici, il est bien bon, il est très efficace physiquement, mais une fois qu'il est plus capable de ramasser du blé d'Inde là, ou de réparer des machines, là, tu fais quoi avec ce gars-là s'il est pas capable de s'exprimer en français?
Non, effectivement.
Médicamenté, traumatisé. Alors souvent, ça fait des invalides. Et c'est pour ça que les employeurs contestent autant ce type de dossier-là, parce qu'on se retrouve avec des dommages corporels et des sommes considérables en jeu.
Je ne sais pas si vous connaissez Epic Games. Ça vous dit-tu quelque chose? Non.
Non.
C'est les créateurs du jeu Fortnite, qui est un jeu extrêmement populaire, Maître Bellemare, chez les enfants. Puis moi, ben, je vais vous faire... je vous l'avoue.
Une confidence.
Là. Ben oui, je joue...
T'es pas pire là-dedans aussi?
Je joue régulièrement avec mes gars à Fortnite. C'est quelque chose qu'on a en commun. On joue au hockey, on joue à Fortnite sur Xbox, puis on a bien du plaisir. Puis parfois, ben, comme on est une famille qui est séparée, ben je suis chez nous, puis je joue avec mes gars à Fortnite, puis on se parle dans nos oreilles avec un moyen de communication, puis on a énormément de plaisir. Et là... La compagnie Epic Games a été déboutée en cour d'appel parce que on a décidé, en fait, on veut la permission d'appeler devant la Cour d'appel du Québec pour faire un recours collectif contre cette entreprise-là parce que c'est un jeu qui est très attractif et ce jeu-là aurait pour but d'attirer vraiment, vraiment les enfants alors que c'est totalement illégal là, de faire un produit qui attire vraiment les enfants. Vous allez me dire que la marge est minimum. Mais des fois, je me dis, mais les parents, tu sais, là-dedans, leur rôle, il est où, là? Tu sais, c'est des parents qui accusent Fortnite d'être responsable que leur enfant se couche, leur enfant de 7 ans se couche à 1h, 2h, 3h du matin. Je veux dire, je sais pas, moi, là, moi, mettons que je reviens à base, là, si je sais qu'on est lundi puis que mon gars, à 9h, il est encore debout le soir, vous pouvez être sûr que je vais avoir un talk avec en disant, non, t'as peu, là, tu comprends pas. Là, tu t'en vas te coucher maintenant. Si tu me refais la même affaire demain, tu vas te coucher à 18h30. Es-tu clair? C'est 17h.
C'est ça. Puis tu vas jouer de telle heure, si t'es fin, puis si t'as des bonnes notes.
Oui, exact. Mais là, on parle de conséquences physiques et psychologiques de la cyberdépendance créée par le jeu. La dépendance à Fortnite encouragerait des débours, je sais pas c'est quoi, des débours excessifs. Là. Je sais pas s'il y a une erreur ici.
Des débours, des sommes, des dépenses.
Ah, des déboursés. Ouais, OK, c'est déboursés. Beau. Puisque les joueurs dépenseraient sans compter et achèteraient des V-Box. OK, attendez un peu, là. Ça, pour acheter quelque chose sur Internet, là, ça prend une carte de crédit. Ces gens-là prennent l'argent à quel endroit?
Oui, c'est ça. Non, mais ils invoquent la cyberdépendance. Un peu comme les compagnies de tabac dans les années 70, là, qui mettaient des produits dans la cigarette pour développer une dépendance qui a été condamnée à des milliards de dollars. Mais j'ai l'impression qu'il invoque un peu le même problème en disant bien, cette machine-là diabolique vient sournoisement influencer les jeunes et vient développer chez eux des réflexes de dépendance. Et on ne peut rien faire comme parents pour contrer ça. C'est psychologique, c'est profond. Puis là, bien, il va y avoir des batailles d'experts à savoir est-ce qu'effectivement il y a des mécanismes dans la conception de ce jeu-là, qui vont affecter le mental de l'enfant, développer chez lui des dommages à long terme ou à moyen terme, et empêcher les parents d'exercer une forme d'autorité, tellement l'enfant est dépendant et a développé un mécanisme d'attraction incontournable face à la machine.
Mais ils vont-tu faire passer un test de QI aux parents?
Ouais.
Moi, j'exigerai un test de QI aux parents là, qui vont se présenter pour le recours collectif en disant « c'est inacceptable, là, Epic Games fait coucher mon enfant trop tard ». Attends un peu, là, en tant que parent, on a-tu des responsabilités?
Tu sais, ben, moi, c'est là, ça.
Je vais vous avouer.
Mais c'est parce que probablement que le parent qui dit ça de son enfant a laissé aller l'enfant pendant longtemps, sans aucun contrôle, puis quand le petit gars il s'est couché à 2-3 heures du matin à quelques reprises, on l'a toléré. À un moment donné, on veut l'arrêter pour un problème de le sevrer. Ça, c'est une autre affaire. Comment on s'est comporté pendant la période où on invoque aujourd'hui un développement de cyberdépendance? Ça prend combien de temps avant de développer une cyberdépendance? Et pendant cette durée de développement-là de la cyberdépendance, où étaient les parents? C'est aussi ça la question. Mais tu sais, tu ne peux pas empêcher des gens de s'adresser aux tribunaux. Le recours collectif, c'est la grande mode. C'est très. Les juges sont très permissifs sur le recours collectif aujourd'hui. Ça a beaucoup changé depuis l'adoption de la loi sur le recours collectif dans les années 70, en 79 pour être plus précis. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont autorisés, beaucoup plus qu'avant. C'est considéré comme étant une espèce de moyen d'accès à la justice qui est très populaire, qui est très prisé par les tribunaux. Alors, ils y vont, puis s'ils gagnent, ils vont avoir une compensation, puis il va y avoir un règlement hors cours, puis la compagnie va vouloir sauver la face, puis ils vont promettre un certain nombre de choses pour se rassurer les parents.
Moi, je trouve ça un peu bizarre, le recours collectif, là, mais comme je suis un utilisateur de jeu-là, puis que mes enfants aussi, lorsque eux autres auront gagné, là, ben là, je vais m'inscrire pour avoir un petit montant, un petit 25
quelques pièces,
30 pièces, ben oui.
D'acheter un autre jeu.
Oui, on est comme ça. Mais des fois, je lis ce genre de nouvelles-là, puis je me dis, mais t'es un peu, là, on est rendu à quel endroit, tu sais?
Ouais, c'est ça.
Votre génération à vous, la génération de vos parents, je veux dire, jamais ils auraient confié l'éducation de leurs propres enfants à d'autres personnes ou à des entreprises. Là. C'est notre job à nous, en tant que parents, d'élever nos enfants puis de leur donner une discipline de vie.
Ben nous autres, moi, écoute, ma plus jeune a 22 ans, là, mais c'était pas plus qu'une heure par jour d'écran. Puis sur semaine, c'est exceptionnel. Alors, après ça, on va jouer dehors pour tous les amis qui ne sont pas des accros des écrans. Mais aujourd'hui, il y a plus de temps consacré aux écrans qu'avant, beaucoup plus. Les téléphones, les tablettes, la télévision, il ne faut pas l'oublier, c'est encore là, parce que tu sais, les écrans, ce n'est pas juste les ordinateurs, c'est aussi la bonne vieille télé, c'est aussi les écrans de cinéma quand on va au cinéma. Fait que ça fait beaucoup de charges visuelles et neurologiques dans la tête d'un enfant aujourd'hui, c'est certain. Puis comment les parents peuvent faire pour doser ça? Ben, ça prend des limites parce que si tu laisses aller le flow, lui, là, il n'y a rien de plus drôle là-dedans. Puis s'il est hyperactif, c'est encore mieux parce qu'eux autres, ils sont complètement accros à ça. Puis ils peuvent passer des journées complètes sur les écrans.
Mais j'ai une idée, Maître Bellemare, puisque c'est jamais la faute des parents, jamais, jamais, là. Est-ce que vous embarqueriez avec moi dans un recours collectif contre le gouvernement du Québec qui n'est pas capable d'enseigner convenablement le français à nos enfants?
Oui, ça j'embarquerais, oui.
Ah oui?
Parce que ça, c'est vrai. Parce que ça, c'est vrai.
Eh oui, eh oui. On en règle-tu des affaires?
Hey, oui, c'est ça.
On parle d'un individu un peu particulier qui a mérité 8 ans de prison parce que chez lui, il y avait une panoplie d'armes à feu qui étaient prohibées. Et dans ces armes à feu-là qui étaient prohibées, on a retrouvé aussi des armes volées.
Hey, c'est assez incroyable, hein? Mais le gars, c'est pas lui qui avait pogné 12 ans à un moment donné. Je pense qu'il avait pogné 12 ans ou je ne sais pas trop. Il avait déjà été condamné pour avoir des fusils de chasse puis toutes sortes de choses. Alors, attends un petit peu, je suis en train de regarder ce qu'il y avait, lui. La juge a dit qu'il avait adopté un style de vie hors la loi, qu'il n'avait pas appris de son passage à la cour, parce que quelques années avant, il avait pogné une peine assez
En
salée aussi.
2013, là, il y avait un arsenal chez lui qui était assez semblable à celui qu'on a retrouvé dans les derniers jours. Il avait été condamné à 7 ans.
Oui, OK, c'est ça. Mais 7 ans, c'est aussi le nombre de fusils qu'il y avait chez eux. Hein. Il y avait chez lui 7 fusils tronçonnés. Parce que quand même, il y a eu une plainte. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait un fusil. Puis lui, il y avait une ordonnance de cour qui disait qu'il ne pouvait pas avoir une arme. Alors, c'est ça qu'il y a une police chez eux. Ils ont rentré dans la maison. Ils ont vu qu'il y avait 7 fusils tronçonnés qui les rendaient plus facilement dissimulables. Ben oui, ils sont plus courts. Des pistolets, mais aussi des silencieux. Des silencieux, pas un silencieux de char, là, un silencieux de fusil, un chargeur à haute capacité, un gilet pare-balles, une machette, entre autres énumérer la juge en rappelant le danger que représente ce genre d'arme. Tu sais quoi sa défense?
Non,
Il
c'était
aime la
quoi?
chasse.
Ah
Il
oui.
aime la chasse. Il n'y a pas de permis de chasse. Il aime la chasse. Écoute.
Chasser avec un 12 tronçonné puis des silencieux, ça doit être quand même assez courant là, dans nos forêts au Québec, là.
Oui, c'est ça. Alors, l'individu a été condamné. C'est 8 ans. C'est quand même, écoute, on voit souvent des cas d'agression sexuelle, puis on en pogne un an et demi, même pas des fois. Mais là, c'est drôle. Dans ce cas-là, c'est pas rien. Là. Mais moi, j'aurais aimé ça que ça soit, qu'on ait des peines qui soient aussi sévères dans d'autres genres de crimes contre la personne. Ça, c'est pas un crime contre la personne. Il faut comprendre que la possession d'armes, c'est pas un crime contre la personne, c'est un crime matériel, important. Mais puis ce genre de gars-là peut faire quoi? C'est toujours, on s'attend toujours à ce qu'ils utilisent éventuellement ces armes, ou bien qu'ils les trafiquent, ou bien qu'ils les vendent à des gens qui pourraient aller commettre des vols, des fusillades, parce que tu sais, c'est pas toujours le propriétaire initial de l'arme qui va commettre le meurtre ou la série d'assassinats ou les vols à main armée. Mais ça donne quoi d'avoir ces fusils-là si c'est pas pour mal faire, tu
Ben,
sais, en
sans
quelque
trop
part?
m'immiscer dans les affaires policières, puisque c'est pas moi qui tenais le fanal là, lors de l'enquête, mais probablement que sur des lieux de certains crimes, ils ont trouvé des armes. Puis en regardant un peu ces armes-là, ils ont peut-être trouvé une empreinte digitale, puis ils l'ont peut-être relié à cet individu-là qui s'était fait prendre en 2013. Puis ils ont été faire un tour, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait des armes illégales, mais ils peuvent pas le relier au crime qui a été commis. Bien souvent, c'est des affaires comme ça. Donc, des enquêtes qui débutent pour des gestes qui ont été commis. Là, il y a des empreintes digitales qui se trouvent à des places où c'est pas supposé être. Puis là, ben, il y a une autre enquête qui se forme, puis on se rend compte qu'on s'en va voir cet individu-là. On n'est pas capable de le relier au crime, mais on est capable de dire, lui, il y a des armes prohibées chez lui, puis il y a des armes qui sont volées au travers. Parce qu'on va se le dire, les silencieux, Maître Bellemare, là, t'sais, il y a de fortes chances que cet individu-là les revendait au crime organisé.
Ben oui, absolument. Puis, tu sais, la juge dit, ben, il faut sévir face au fléau des armes à feu qui sévit dans la métropole. Ben, c'est ça, c'est le journaliste qui dit ça, mais la juge dit, il y a une problématique bien réelle des armes à feu dans cette région de la province, en parlant de la région de Montréal. Mais moi, je pense que c'est partout, c'est la même chose. Le gars en Gaspésie qui a des fusils de cette nature-là, l'important, c'est qu'il y a un fléau puis que les juges s'en occupent avec des peines plus sévères. Mais je pense qu'un individu comme ça, partout sur le territoire québécois et canadien, constitue une menace. Et c'est ce qui va amener M. Ziad Antoine Chanoun à passer apparemment 8 ans et demi dans un pénitencier fédéral. Mais que M. Antoine Chanoun ne s'inquiète pas, il sera vraisemblablement libéré dans peut-être 2 ans, 2 ans et demi, peut-être moins, à la faveur de quelques règlements autres. Et puis, ira-t-il dans une prison pour hommes? Fort probablement. Alors,
Mais savez-vous
voilà.
qu'est-ce qui me fait dire ça, que probablement...
Il y a toujours des libérations conditionnelles qui vont venir. Si on suivait tout ça, Yann, là, on finirait plus de voir des gars qui sortent à un tiers, puis deux tiers de la peine.
Mais savez-vous qu'est-ce que... Parce que, tu sais, quand je vous dis, il y a peut-être eu une enquête ailleurs, puis finalement, ils n'ont pas été capables de le relier à cette enquête-là, puis ils en ont reparti à un autre en allant le rencontrer en se rendant compte qu'il y avait encore des armes, c'est que la plupart des armes qui ont été retrouvées chez cet individu-là, quand les enquêteurs ont regardé pour le numéro de série, pour ça, parce que là, ils se sont aperçus que c'est un grand collectionneur d'armes qui faisait ça par amour et par passion, ils ont regardé les armes, puis ils se sont rendu compte que les numéros de série avaient été effacés, là.
Donc, en plus.
Ouais,
écoute, ça sent le crime organisé.
Ben oui.
Ça sent la magouille. Puis on parle d'armes, là, tu sais, d'armes à feu. Là. On ne parle pas d'un ordinateur ou on ne parle pas d'une casquette. Là. On parle d'armes à feu. Là, c'est fait pour tirer, puis c'est fait pour tuer, puis blesser. Tu sais, il n'y a pas d'autre utilité. Peu importe ce que tu vas, ce sur quoi tu vas tirer, puis ce que tu vas tuer. Ça peut être un animal, ça peut être un objet ou ça peut être un individu, mais. Moi, je trouve que ces gars-là doivent être à l'ombre le plus vite possible.
Je sais que vous êtes entendu dans moins d'une dizaine de minutes, là, donc il reste à peu près 5 minutes, Maître Bellemare. Il y a une demande d'action collective contre le milliardaire Robert Miller, le curieux milliardaire, le très discret milliardaire Robert Miller.
Oui, c'est ça. Ça m'a fait penser, ben, tu sais, on l'a vu, l'émission Enquête à Radio-Canada, on a fait largement état. Tout le monde en parle, on en a parlé aussi il y a 2 semaines. C'est un individu qui est un homme d'affaires influent, très, très, très important de la région de Montréal, qui a perdu sa job de président depuis, mais qui a quand même, semble-t-il, mis sur pied un espèce de réseau de recrutement de jeunes filles, essentiellement des adolescentes, qui, au cours des quelques décennies qui précèdent, ont été invités à se présenter chez lui. Il rentrait par la porte d'en avant, il sortait par la porte d'en arrière. Tu avais tout un réseau, tu avais tout un système de transport qui amenait les jeunes filles là-bas. Et là, il y avait un système de cadeaux, de rétributions extrêmement généreux qui permettait aux filles d'avoir des cadeaux, puis d'avoir de l'argent, puis d'avoir des sacs, puis d'avoir des vêtements, puis ça. Puis à un moment donné, ben, il y a eu des plaintes. Et ces filles-là, pour plusieurs, sont rendues aujourd'hui dans la trentaine et même plus. Et là, on parle d'un recours collectif. Mais ça me fait penser un petit peu à l'affaire Roson. Dans Gilbert Roson, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu une vingtaine de filles, 15-20 filles qui ont décidé de présenter une demande de recours collectif.
Les courageuses.
Oui, c'est ça. Et je pense que c'est la Cour supérieure qui avait autorisé le recours, mais la Cour d'appel a infirmé la décision en disant qu'il n'y a pas assez de similitudes entre les cas. Parce que dans les cas d'agression sexuelle, c'est pas facile de trouver une similitude. Il peut y avoir des plus c'est similaire, plus parce que le Code de procédure civile prévoit que pour une action collective, il faut qu'il y ait des faits identiques, similaires ou connexes. Alors, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose, tu sais, si tu poursuis une compagnie de céréales parce qu'il manque un cordon dans ta boîte, puis que ça a été distribué à 100 millions d'exemplaires, bien là, on sait que c'est tout identique, tu sais. Les mêmes boîtes, il manque un quart d'once de céréales dans la boîte. À ce moment-là, tu peux intenter un recours collectif. Si tu intentes un recours collectif contre un fabricant automobile ou un fabricant de pneus comme Firestone, il y a quelques années aux États-Unis, un recours collectif important parce qu'il y avait des blowouts, hein, les pneus explosaient, mais il y avait un vis sur les pneus. Et c'était pas tout à fait identique, mais il y avait beaucoup de similitudes entre les accidents et les défaillances de ces pneus-là. Mais dans un cas d'action collective, je ne dis pas que ça ne sera pas accueilli, là. Mais il faut que l'avocat travaille très fort pour trouver une espèce de modus operandi. Comment est-ce qu'il recrutait les filles, comment il abusait d'elles, comment. Bon, il semble qu'il y a quand même une certaine similitude dans la façon de procéder. Est-ce qu'il y avait aussi une similitude dans le type d'agression qui était commis? Semble-t-il aussi. Alors, ça se pourrait que dans Roson, ça n'ait pas marché, puis dans le cas de Mélard, ça marche. On verra bien, mais il reste que la Cour d'appel a déjà refusé pour les victimes alléguées de Gilbert Roson d'autoriser un recours collectif, ce qui laisse quand même de la place à des recours individuels. C'est pas parce que le recours collectif n'est pas possible comme instrument de procédure qu'il n'y a pas un recours individuel. D'ailleurs, dans le cas de, je ne sais pas si tu te souviens, on en a parlé il n'y a pas longtemps, en Ontario, la Cour supérieure qui avait blâmé Hockey Canada pour les initiations, là.
Oui.
On a beaucoup parlé aussi, mais le juge a dénoncé des pratiques de l'organisation de sport, mais le juge a refusé d'autoriser le recours collectif en disant qu'il y avait trop de disparités dans les cas. Alors, ce n'est pas parce que tu as une bonne cause que nécessairement le recours collectif est le bon instrument au niveau des procédures. On verra bien dans le cas de M. Miller.
On dit que l'action vise toutes les personnes qui ont fourni des services sexuels ou ont été victimes d'exploitation sexuelle par Robert Mueller lorsqu'elles étaient âgées de moins de 18 ans. On dit que selon les allégations de la procédure, la jeune femme avait 17 ans lorsqu'elle aurait rencontré le milliardaire avec plusieurs autres jeunes filles dans un hôtel montréalais. Après avoir été choisie par l'homme d'affaires, elle aurait eu des relations sexuelles avec lui à 7 ou 8 reprises. Elle recevait à chaque fois entre 1 000 $ et 3 000 $. Et elle, c'est en visionnant le reportage d'enquête au réseau anglais de Radio-Canada qu'elle a réalisé l'ampleur des séquelles psychologiques liées à cette période de sa vie. Donc, elle a fait des dépressions, elle a eu une perte d'estime d'elle, l'utilisation de drogue et d'alcool. La jeune fille, qui n'est identifiée que par ses initiales, réclame 1 million de dollars en compensation pour des dommages psychologiques et 1,5 million de dollars supplémentaires en dommages punitifs. Ce que je me pose comme question, c'est qu'on peut y aller avec ce genre d'action-là sans nécessairement que l'individu soit accusé au criminel. On termine avec ça.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas le fait qu'il ait été condamné, accusé au criminel, ça veut rien dire, il est plus ou moins innocent. Le fait qu'il ait été condamné, ça peut être considéré comme un aveu dans une poursuite civile, mais t'es pas obligé d'avoir une condamnation criminelle pour être payé. Même IVAC n'exige pas une condamnation criminelle. On n'a même pas à dévoiler l'identité de l'agresseur pour être indemnisé par IVAC. C'est une mesure civile. Donc, c'est une probabilité que le crime a été commis et non pas une certitude comme c'est le cas pour les accusations en droit criminel.
On en apprend-tu des choses avec vous, Maître Bellemare?
Hey, ça finit plus, hein?
Ça finit
Moi-même, je m'écoute parler puis je m'en apprends en même temps que je le dis.
Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci d'avoir été
Oui,
des nôtres.
c'est
On se
beau.
rejase lundi prochain. Salut!
Merci. Bonne semaine, tout le monde.
Bye bye.
Bye-bye.
Marceau, le soir. Envie de repousser vos limites? C'est possible grâce à Bernier Sport Limité. Passez au magasin de Laurier Station et voyez comment vous pourriez dominer la nature. Le VTT Can-Am Outlander a tout ce qu'il vous faut pour rehausser vos aventures. Et obtenez jusqu'à 500 $ de rabais sur certains modèles 2022 sélectionnés. Visitez Bernier Sport Limité à Laurier Station pour prendre la clé des champs sur un véhicule Can-Am conçu pour vous transporter partout. Visitez votre concessionnaire autorisé BRP pour plus de détails.
Clinique Proderme, vos soins médicaux esthétiques personnalisés.
Vous êtes nouvellement maman, avez des vergetures, des cicatrices et la peau flétrie. Offrez-vous les traitements révolutionnaires 3D au Photona à 50% de rabais.
Demandez votre consultation à Lévis, Saint-Georges et cliniqueproderme.com.
Profitez d'un mois gratuit sur nos appartements deux chambres et plus au MU. Découvrez nos impressionnantes aires de vie et trouvez un chez-soi à votre image parmi nos 80 types d'habitations locatives, tout inclus. MU, des espaces de vie aux espaces de ville. Habitemu.ca.
Le Cosmos, c'est la place pour bien manger et avoir du fun. C'est le temps d'y aller entre amis. Du dimanche au jeudi soir, le pichet de bière est gratuit à l'achat de 4 plats principaux. 18 ans et plus pour un temps limité. Réservé sur lecosmos.com.
Si je te dis bière de micro et pizza, ça te donne le goût, hein? Du mardi au dimanche, ça se passe à l'Emporium. Avec une variété de bières brassées sur place et des pizzas cuites au four à bière rotative, l'Emporium, c'est la place pour une soirée en chum. Réserve sur microbrasserieemporium.com.
Du 4 au 12 mars, au Musée de la Civilisation, partez à la conquête de l'Égypte antique pour une semaine de relâche inoubliable en famille. Spectacles, ateliers, quêtes dans tout le musée, cinéma et bien plus. Programmation complète au mcq.org. Une présentation Hydro-Québec.
Passionné de robots et de mécanique, Leclerc Robotique recrute. Entreprise d'intégration de robots industriels et de machinerie sur mesure, Leclerc Robotique est à la recherche d'un ingénieur mécanique spécialisé en conception pour dessiner et coordonner les projets jusqu'à la mise en route. Leclerc Robotique recherche aussi un machiniste sur commande numérique avec expérience qui travaillera sur la programmation, l'ajustement et l'usinage des pièces. Joignez-vous à une équipe qui possède une solide expérience, celle de Leclerc Robotique. Postulez maintenant au carrière.fm ou sur leclercrobotique.com.
Quelle est la capitale du Bleuet?
Lac-Saint-Jean.
De l'assurance?
Hein?
La capitale de l'assurance, c'est Québec. Mise sur une formation primée et un emploi assuré avec l'AEC en assurance de dommages en virtuel de la formation continue du Cégep de Sainte-Foy.
Vousbrillez.ca.
Boulevard 102.2. La radio rock de Québec.
Boulevard.
Le rock, ça nous coule dans les veines. Et on partage cette passion-là avec vous. Mettez ça sur le poste, assoyez-vous confortablement et profitez du meilleur rock à Québec.
Boulevard 102.1.
C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Merci d'être bien branché sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec. Un excellent lundi soir à tout le monde. Toujours un plaisir d'être avec vous autres. Puis de plus en plus, quand je vous croise, bien, vous me parlez de cette belle station-là qui est Boulevard. Et je vous le dis, il y a de belles choses qui arrivent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On va être une antenne extrêmement forte. On travaille fort. Juste avant de vous laisser, parce que c'est important de vous le mentionner, j'imagine que vous allez à la maison ou encore vous travaillez sur la route, puis demain, ben, vous aurez à prendre la route. Partez donc un peu plus tôt. Je ne veux pas vous donner de conseils, là. S'il y en a un qui est imparfait, c'est bien moi. Mais demain, on parle de neige parfois forte. Donc, c'est ce qu'Environnement Canada nous mentionne. Puis ça devrait commencer aux petites heures du matin. Donc, des rafales à 50 km/h et il y aura de la poudrerie aussi par endroit. Entre 5 et 10 cm annoncés, maximum de moins 6 degrés pour ce qui est de demain. Mardi. Pour ce qui est de mercredi, ben là, on parle d'une alternance de soleil-nuages avec un maximum de plus 1. Jeudi, c'est de la neige, maximum de plus 1. Vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 6. Puis pour ce qui est du week-end, bon, mettons qu'on en parle, là, alternance de soleil-nuages, maximum de moins 3. Et dimanche, alternance de soleil-nuages, maximum de moins 1. Fait que le mercure, il n'est pas si froid que ça. On s'en va un petit peu plus vers l'été. D'ailleurs, mercredi, puis oui, mercredi déjà, on va être le 1er mars. Donc, le printemps s'en vient. Je salue tous mes amis motocyclistes avec qui ben, j'aurai le plaisir de partager la route ce printemps, cet été. J'ai très, très hâte. D'ailleurs, je suis en train de magasiner une autre moto. Là. Je me comprends plus. Custom, sport, je ne sais plus. J'ai déjà un sport. Je pense que je vais m'acheter un custom. Mais bref, je me dis que je vais passer un bel été à moto. Oui. Hey, petite nouvelle d'Yves Leclerc dans le Journal de Québec qui est apparu aux alentours de midi aujourd'hui. Tout porte à croire que Vance Joy, oui, l'excellent Vance Joy va être de la 55e édition du Festival d'été de Québec. Ça a été dévoilé aujourd'hui sur la page Facebook du Festival d'été de Québec. Et la programmation probablement complète là, va être révélée le 22 mars prochain à midi. Donc encore quelques jours pour savoir qu'est-ce qui se passera chez nous à Québec cet été. La semaine dernière, le Blues Fest d'Ottawa, qui va se dérouler à peu près aux mêmes dates que le Festival d'été de Québec, là, avait dévoilé sa programmation. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Billy Talent qui va être là, les Foo Fighters, The Smile, avec Tom York et Johnny Greenwood, The Radiohead, Mumford & Son, Wizard, Robert Plant, l'excellent Robert Plant, et Alison Krauss, The Wars on Drugs, Shania Twain, Dead Cab for Cutie, Pitbull, Charlotte Cardin, celle-là, on la connaît un peu plus, là, au Québec et en Europe. Fleet Foxes, je ne connais pas. Ludacris et Tegan and Sarah, certains de ces noms, comme le veut la tradition, passeront assurément à Québec. Et si vous me demandez lequel que je privilégierais, ben, ce serait bien entendu The Foo Fighters. Ce serait le fun de les avoir. Peut-être aussi une petite soirée country avec Shania Twain là, pour nous enchanter ses plus grands succès. Ça pourrait être pas pire. Pitbull qui va probablement peut-être faire énormément de plaisir à des gens, oui, s'il se présente au Festival d'été de Québec. Ça fait des belles soirées. Donc, voilà, je vous souhaite de passer une belle fin de soirée sur les zones de Boulevard. Les podcasts s'en viennent dans les prochaines minutes. Puis nous, ben, on se retrouve demain dans Marceau le midi avec l'excellente Élodie Derry et Maxime Larouche qui sera là, bien entendu, à l'actualité et au sport. Donc, bonne soirée, puis on se rejase demain à 11h30. Ciao!
Marceau le soir.
Offre incroyable chez Océanique. Jusqu'au 30 mars, obtenez 35 % de rabais sur le nettoyage des conduits de ventilation résidentiels. Demandez votre soumission océaniquenettoyage.com. Toujours à la recherche d'activités uniques pour amuser toute la famille à la semaine de relâche, planifiez votre visite au village nordique du port de Québec. Tous les jours, du 3 au 12 mars, on vous invite à participer à de nombreuses activités et à venir vous amuser en famille dans notre aire de jeu. Il y a de quoi avoir du fun pendant des heures au village nordique. Réservez votre place dès maintenant en visitant le village nordique avec un cas.com.
Révolutionnez vos espaces avec TML Informatique, expert en domotique. La domotique, c'est ce qui permet de créer un environnement connecté. Grâce à ce système simple et intelligent, vous économiserez de l'énergie et maximiserez votre confort. Confiez votre projet à notre équipe certifiée Control 4. TMLinformatique.com.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Quelle est la capitale du Bleuet?
Lac-Saint-Jean.
De l'assurance?
Hein?
La capitale de l'assurance, c'est Québec. Mise sur une formation primée et un emploi assuré avec l'AEC en assurance de dommages en virtuel de la formation continue du Cégep de Sainte-Foy.
Vousbrillez.ca.
Passionné de robots et de mécanique, Leclerc Robotique recrute. Entreprise d'intégration de robots industriels et de machinerie sur mesure, Leclerc Robotique est à la recherche d'un ingénieur mécanique spécialisé en conception pour dessiner et coordonner les projets jusqu'à la mise en route. Leclerc Robotique recherche aussi un machiniste sur commande numérique avec expérience qui travaillera sur la programmation, l'ajustement et l'usinage des pièces. Joignez-vous à une équipe qui possède une solide expérience, celle de Leclerc Robotique. Postulez maintenant au carrière.fm ou sur leclercrobotique.com.
Clinique Proderme, vos soins médico-esthétiques personnalisés.
Vous avez le teint terne, des poches et des rides. Obtenez 100 $ de rabais sur les traitements de photorajeunissement au IPL. Résultat immédiat.
Demandez votre consultation à Lévis-Saint-Georges et cliniqueproderme.com.
De retour et rechargé, le Salon de l'Auto célèbre ses 40 ans. Zone Tuning, Zone Arcade, Zone Corvette, essais routiers de voitures électriques, simulateurs de course, collection privée de plus de 30 millions de dollars, Bugatti, Lamborghini, Ferrari. Visitez le Salon de l'Auto présentant le plus de marques au Canada. Du 7 au 12 mars, Expo Cité, en collaboration avec la Banque Scotia, présenté par IA Assurance Auto et Habitation. Partenaires, CA Québec, TVA, Journal de Québec, Boulevard 102.1.
Samedi et dimanche, Boulevard 102.1 vous plonge dans l'univers musical de Matt Marcotte et Reg Laplanche.
Le volume à Blanche.
Un show storyteller avec deux gars qui en ont pas mal à raconter.
Moi et Reg, on jase un peu, mais on est une des émissions où on raconte le plus d'anecdotes, mais où, ultimement, on jase le moins.
Ouais, c'est vrai.
On en a eu des rencontres avec des artistes, des histoires, des anecdotes, puis c'est ce qu'on veut partager avec vous.
Ne manquez pas le volume à Blanche, les samedis et dimanches, 16h, avec Reg Laplanche et Matt Marcotte.
Boulevard 102.1.
Ici, une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer. Ici, une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer. Ici, une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser. Ici, une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock.
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça serait la radio parfaite.
Ben, c'est ça.
Boulevard 102.1, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
Il y en a qui sont scandaleux. Il y en a qui se retrouvent sur des sites louches. Il y en a qui sont très attendus. Puis il y en a d'autres que tu veux pas voir.
Maman, c'est quoi qui est sur cette cassette-là?
Oh non!
Le nôtre commence maintenant. Voici Sextape, le podcast avec Audrey Pinchot.
Présenté par les boutiques érotiques au 7e ciel qui, tout comme notre podcast, s'invite dans votre intimité pour votre plaisir. Marché Jean Talon, 911 Charest-Ouest au 7e ciel.com.
OK, c'est parti. Hey, je veux commencer par dire merci aux boutiques érotiques au 7e ciel pour l'association au podcast Sextape. C'est pas mal le spot, en fait, le 7e ciel pour vos achats un peu plus olé-olé, que ce soit pour mesdames, messieurs, en couple aussi. Le 7e ciel a pas mal tout ce qu'il vous faut. Là, c'est pas mal la plus grande variété de produits pour tous les goûts, les budgets aussi. aussi. On a comme une tendance des fois à se dire hey, je peux pas acheter ce jouet-là, c'est bien trop cher, 300$, je peux pas me le permettre. Il y a de tout, de toutes les grosseurs pour tous les budgets. Il y a moins de moyennés si vous le voulez. Les marques les plus populaires, évidemment, on les a aussi. J'entends plein de pubs là, ces temps-ci de Womanizer. Les gars, si vous voulez gâter vos blondes, paraît que c'est bien, bien populaire, ça aussi. Service professionnel, évidemment. Deux adresses, le 911 Charest-Ouest à Québec, marché Jean Talon de Charlebourg aussi. Le site web au 7e ciel.com. Bien, c'est une aventure qui commence. Je vais te faire un chin immédiatement. L'aventure du podcast Sextape. Je vais prendre un petit instant pour l'introduire quand même parce que Sextape, c'est tout nouveau. C'est quoi? On va jaser de sexualité, mais tout bord, tout côté, on va aller dans le léger, évidemment, dans l'amusant, mais aussi dans ce qui est peut-être un peu plus tragique éventuellement.